Lorsqu'en 1875, George Smith, que vous voyez ici, publia en copie le texte 4310, il ne s'imaginait certainement pas la popularité qu'aurait ce texte à l'heure actuelle. En effet, avec 10 autres documents découverts eux aussi à Ninive, sur l'autel de Kuyunjik, il devait former l'un des deux corpus de textes de prophétie du Proche-Orient cunéiforme, auquel s'ajoutera bien plus tard celui des tablettes de Marie. Les documents découverts à Ninive datent tous de l'époque néo-assyrienne, donc des 9e, 7e siècles, plus particulièrement des règnes d'Essaradon et d'Assurbanipal. Les textes comportant des prophéties sont de trois types. Nous avons des lettres, des rapports et enfin des recueils. Le corpus de Ninive comporte trois grands recueils auxquels est associé un quatrième tout petit, ainsi que une qui, bien que ne comportant qu'une seule prophétie, est une tablette verticale comme les quatre autres. Et nous avons aussi six rapports. La structure de ces grandes tablettes est extrêmement simple. Chaque prophétie est séparée par un trait, et chacune donc commence par une adresse, puis vient le contenu de la prophétie, suit un trait délimitant le nom du prophète, avec quelques détails le concernant. L'intérêt de ce corpus est, outre de pouvoir le comparer avec les prophéties bibliques et d'en étudier la structure littéraire, d'observer la place des prophètes dans le monde néo-assyrien, notamment celle qu'ils pouvaient tenir à la cour assyrienne, déjà connue pour accueillir un grand nombre de savants entourant le roi. Pour cela, nous étudierons les deux termes principaux désignant ce que nous rendons par prophète pour l'époque, à savoir le ragimou et le marhou, puis nous verrons si la transmission de la parole divine se limite à ces deux personnages. Le seul personnage que l'on voit réellement agir comme un prophète dans la documentation néo-assyrienne est le ragimou, terme construit sur la racine ragamoum, crier, réclamer. Sur les 14 prophètes connus des textes de prophétie néo-assyrienne, seuls deux ragimou et une ragimtou sont connus. Ils apparaissent aussi dans la correspondance néo-assyrienne, mais très rarement, puisqu'ils n'y sont mentionnés que 5 fois et qu'une seule prophétesse est connue. Il s'agit de Moulissou Abou Outsri. Dans tous les cas, ce sont les propos du prophète qui sont retranscrits ou introduits par la phrase, nom propre, « le prophète a dit » ou « le prophète, suivi de son nom, a prophétisé à tel endroit et il a dit ». Il faut noter par ailleurs que ces prophètes sont toujours mentionnés indirectement à travers la correspondance d'autres personnages, notamment celle entretenue entre Essaradon et ses deux savants. Une lettre de Belushézib, un Babylonien et un des principaux savants d'Essaradon, exprime au roi son incompréhension devant la convocation des prophètes, Ragimanou, et des prophétesses, Ragimanatou, par le roi, alors que lui-même ne semble pas avoir été consulté. L'aigreur de l'expéditeur montre que ce type de prophète pouvait donc être convoqué par le roi et qu'une de ses fonctions était donc d'être interrogé par le roi sur un sujet précis, comme un quelconque devin, en quelque sorte. Cela semble conforté par un texte célèbre, la lettre d'Uradgula à Assurbanipal, connu sous le titre du « savant malheureux », qui, après avoir décrit sa misère, indique vers la fin de sa lettre « À l'âge où je suis, on me dit, tu as atteint le grand âge. Qui est ton appui? Je ne plais pas au roi. Quand je monte au palais, je ne suis pas à la hauteur. Quand j'ai consulté un prophète, Ragimou, je n'ai rien vu de bon. Il y a eu recours à ses services, mais la vision ensuite a tourné court. » Le ragimou apparaît ici comme un spécialiste connu que l'on peut consulter en cas de malheur. Rien ne dit cependant qu'il est au palais. Il est certain qu'il obtient une sorte de flash, ce qui est vraisemblable vu le sens de Diglou vision. Mais le ratage de cette dernière est d'exprimer par la forme verbale la untati, ce qui signifie au propre n'a pas été complète. On voit par ailleurs décrire des actions de prophète, comme le fait Marissar, un savant des Saradons, qui était également son agent en Babylonie. En lui narrant l'enterrement du substitut royal qui a eu lieu en Babylonie, Damki, le fils de l'intendant, Chattamou. Voici le texte. J'ai été informé qu'avant ces cérémonies, c'est-à-dire les divers rituels liés à l'enterrement, une prophétesse a prophétisé et avait dit à Damki, le fils du Chattamou, tu assumeras la royauté. Or, la prophétesse lui a dit dans l'assemblée du pays, j'ai révélé un putois, une bête qui voulait voler à mon seigneur ce qui est sien, et je l'ai placé dans ta main. Le contexte de l'intervention de la prophétesse n'est pas très clair, malheureusement. Néanmoins, il s'agit d'un bon exemple d'ambiguïté prophétique. Tu seras roi, mais d'une royauté qui causera ta mort. En revanche, publiquement, elle indique au futur roi substitut que le vrai roi triomphera d'un animal néfaste. Il pourrait s'agir d'un exemple de désignation du substitut royal par l'intermédiaire d'un prophète, peut-être influencé par le pouvoir assyrien, ce qui expliquerait que le fils d'un haut personnage babylonien soit désigné, contrairement aux criminels habituels. Dans ce cadre de rituel de substitut royal, nous possédons une autre lettre qui mentionne un conflit entre un administrateur de temple et une prophétesse. Il pourrait s'agir d'ailleurs de la même, puisque le contexte reste celui du substitut royal de Babylone. Au roi monseigneur, ton serviteur Adad Aru Idina. La prophétesse Moulissou Abu Utsri, celle qui a apporté les vêtements du roi en Babylonie, a fait une prophétie dans le temple. Le trône, tu l'as déplacé et l'as emmené hors du temple. Malheureusement, la suite du texte est cassée. Et elle se termine par « Puisse ce trône venir, je triompherai des ennemis de mon roi grâce à lui. » J'ai dit « Je ne donnerai pas le trône sans la permission du roi monseigneur. » Selon ce que le roi monseigneur commandera, nous agirons en conséquence. Cette prophétesse, malheureusement inconnue par ailleurs, néanmoins nous voyons qu'elle avait pour mission de transporter les habits du roi d'Assyrie en Babylonie pour un rituel de substitut. Cela tend à montrer qu'elle avait un rang relativement important et officiel en Assyrie et qu'elle devait être associée aux autres spécialistes nécessaires pour l'accomplissement du rituel, tels que l'exorciste, le devin, etc. Le fait que l'administrateur du temple écrive au roi en nommant la prophétesse montre qu'elle était connue à la cour. Elle avait apparemment la possibilité de prendre des initiatives, mais que les autorités locales pouvaient tout à fait s'y opposer. La décision ultime revenait, et bien évidemment, comme toujours, au roi. Ce statut officiel est étayé par une liste de fonctionnaires qui devaient être logés dans la capitale assyrienne pour une cérémonie non précisée. Puisqu'on y trouve Nergal-Mukinari, un responsable de char, Nabu-Sharaoutsour, un chef de bataillon du prince héritier, Ouazarou, garde du corps de la reine-mère, et enfin, Koupi, prophète. En résumé, nous voyons que les Ragimou étaient des personnages d'un certain rang, qui pouvaient se voir confier des missions par le roi. Par ailleurs, on pouvait les consulter en cas d'insatisfaction sur son sort présent, apparemment pour savoir ce que l'avenir réservait. Il est très intéressant de voir que ce qu'ils obtenaient était une diglou, une vision. Leur association avec le chabrou, que l'on verra plus tard, construite sur la racine de baroum, voir, et dont la fonction est d'avoir des visions nocturnes, est aussi très intéressante. Diglou signifie cependant exactement l'acuité de l'œil. Ainsi, le digloum est diminué par l'absorption trop grande de liquide alcoolisé et marche avec la finesse de l'ouïe, mais peut-être aussi diminué par un travail trop acharné. Ces ragimou ont, dans la hiérarchie des prophètes, semble-t-il, le plus haut standing, celui de l'apiloum de Marie, mais ce dernier ne semble pas avoir de flash. Ce n'est, semble-t-il, que le commentateur du verdict du devin. Il est vrai qu'on ne sait pas si, à côté du devin, il n'avait pas aussi sa technique propre d'entrer en contact avec le monde du divin. À côté de ces prophètes ragimous, d'autres termes semblent aussi désigner des prophètes. Ce deuxième terme est celui de Mahru. Il est extrêmement tentant et inévitable de faire un parallèle étymologique entre ce terme de Mahroum et le Mouroum Mariot, bien connu, ce qui montrerait une très belle continuité entre le XVIIIe siècle et l'époque néo-assyrienne. Or, il s'avère que ce Mahru est extrêmement peu documenté dans les textes d'époque néo-assyrienne. Et cela a fait dire à la plupart des spécialistes que, puisque le terme de Mahru n'apparaît jamais dans des textes purement néo-assyriens, alors que le ragimou n'apparaît que dans ces derniers, ces deux termes sont synonymes. Pour Simo Parpola, par exemple, il est clair que ragimou est un terme néo-assyrien remplaçant l'ancien Mahru. Nissinen suit la théorie de Parpola, qui indique que ragimou est la forme familière, à comprendre assyrienne, du Mahru, qui n'était certainement plus en usage au 7e siècle, mais qui existait encore en Assyrie au début de l'époque néo-assyrienne, puisqu'ils apparaissent dans un décret de dépense de temple. Ici, Marraté. Ce texte est précisément daté de l'année 809. En fait, il faudrait nuancer cette vision des choses. Les listes lexicales néo-assyriennes distinguent très clairement les deux termes, ragimou et mahru, en les associant à des synonymes différents. Le ragimou est associé avec le chabrou, et le mahru avec l'alarou ou zabou. Nous voyons ainsi apparaître la même dichotomie qu'Amari entre l'apiloum et le mouroum, comme l'avait d'ailleurs déjà très bien pressenti Pierre Villard. Les mahru apparaissent aussi dans un commentaire cultuel connu sous le nom d'Ordalie de Marduk, rédigé en néo-assyrien, et qui consiste en fait dans l'explication d'un rituel néo-babylonien adapté aux idées assyriennes, où on nous dit l'extatique Mahru qui va devant la dame de Babylone et celui qui apporte des nouvelles. La présence de Mahru dans ce rituel, si ces derniers sont véritablement inexistants dans la conception néo-assyrienne, serait étonnante. Plus surprenant, les Mahru apparaissent conjointement avec les Ragimou dans le grand traité de succession des Saradons. Je cite: si vous entendez des paroles mauvaises, impropres, désagréables, qui ne sont pas convenables ni bonnes envers Assurbanipal, le grand prince héritier désigné, fils des Saradons, roi d'Assyrie, votre seigneur, que ce soit de la bouche de son ennemi, de son allié, de la bouche de ses frères, de la bouche de ses oncles, de ses cousins, de sa famille, des membres de sa lignée paternelle, ou de la bouche de vos frères, de vos fils, de vos filles, ou de la bouche d'un ragimou, d'un mahru, d'un interprète de rêve ou de toute autre personne, vous devez le rapporter à Assurbanipal, le grand prince héritier. On voit ici la succession nette des termes ragimou et mahru. Dans d'autres passages du même traité, les énumérations énumèrent des professions existantes, telles que par exemple, dans le même contexte de délation, les grands, les gouverneurs, les barbus, les eunuques, les savants, etc. Toutes ces catégories sont bien documentées dans les textes assyriens. Cela tendrait à montrer que ces deux personnages, ragimou et mahru, existent bel et bien dans la société assyrienne. Dès lors, comment expliquer l'absence de mahru dans les textes assyriens de prophétie? Eh bien, à y regarder de plus près, il existe un texte de prophétie où le terme de mahru apparaît. Je vous l'accorde, il est quelque peu fragmentaire. Mentionné entre deux cassures, le voici. Vous voyez ici écrit « Midegubba », ce que les listes lexicales traduisent par « Marutu », c'est-à-dire « prophétesse ». Eh bien, son éditeur l'a compris, et sa traduction a bien entendu été reprise, par « Ragintu », soit prophétesse, sous le prétexte que, puisqu'il n'existe pas de marou dans les textes néo-assyriens, cet idéogramme Midegubba, qui devrait signifier Marutu, ne peut ici signifier que Ragintu, CQFD. Il paraît plus sage ici de considérer que l'idéogramme est à comprendre, comme partout ailleurs, comme Marutu. Nous voyons donc que l'absence de Marou dans les milieux prophétiques néo-assyriens n'est pas évidente, et qu'il serait tentant, en vertu de son association avec le Ragimu, de retrouver là le couple de l'époque paléo-babylonienne formé entre le Mourroum et la Piloum. Marou représente de fait la forme assyrienne de Mourroum, puisque c'est la forme Parous, qui correspond dans ce dialecte à un Pourous du babylonien. Le Marum Amari ne semble pas avoir été un grand prophète, comme la Piloum, mais quelqu'un qui transmet depuis un temple, motu proprio, des informations qu'il disait tenir de la divinité. Cela convient bien avec le fait que le Shipir Maré termine l'énumération des aides divines reçues par le monarque assyrien. Le paradoxe, néanmoins, du corpus des prophéties néo-assyriennes est de nous donner, à côté des Ragimu et des Marou, à la fois un vaste ensemble de prophéties sans prophète, et de nous donner les noms de personnes dont les prophéties n'indiquent pas leur statut. Si l'on étudie les prophètes, ceux qui ont donc transmis un message divin dans le corpus des prophéties assyriennes, nous voyons que, dans celles qui datent d'Assurbanipal, nous avons ici une Ragintu, puis nous avons une autre personne qui n'est pas qualifiée, mais qui est dite venir de Arbel, et enfin, nous avons notre fameuse Marutu. Dans un autre texte des Saradons, nous voyons, bon, bien entendu dans un contexte un petit peu abîmé, un prophète apparaître, alors que dans les compilations de prophéties, nous avons toujours quasiment l'expression de la bouche de NP, fils ou fille, de la ville de NG. La majorité des prophéties sont de la bouche d'Ishtar d'Arbel, par l'intermédiaire de personnes qui sont souvent originaires d'Arbel, mais qui peuvent venir d'autres endroits. Ou même pour certains, quand on ne sait pas trop d'où elles viennent, le scribe indique, par exemple ici, de la bouche de Remuti Allati, de la ville de Dara Arouya, une ville dans les montagnes, montrant certainement par là même qu'il ne savait pas exactement d'où venait la personne. Une fois cependant, le statut de la personne est indiqué de la bouche d'Ishar Beli Daini, une fille consacrée par le roi. Les prophètes sont majoritairement des femmes et leur appartenance au culte d'Ishtar paraît certaine. Certains noms propres sont même ambigus, ce qui va très bien avec le culte d'Ishtar justement, puisque la déesse est à la fois homme et femme. En voici un exemple, vous voyez que Baya porte le déterminatif féminin et est dite fils de la ville d'Arbel. Si cette prédominance de la déesse Ishtar dans le corpus prophétique néo-assyrien est certaine et que les affinités entre le roi d'Assyrie et la déesse sont visibles, notamment dans les inscriptions royales, il ne faut pas oublier que d'autres dieux envoient aussi des prophéties et il faut se garder de tirer des conclusions statistiques de ce corpus qui reste très partiel. Pour Simo Parpola, le fait que le terme Ragimu, Ragintu, prophète, prophétesse, n'apparaît pas dans cette formule, contrairement aux notes des rédacteurs des autres textes, indique qu'il était superflu dans le contexte et souligne la nature fondamentalement orale de la prophétie. Il serait néanmoins étonnant que, dans une partie du corpus, le statut des personnes soit indiqué et dans l'autre, non. Comment expliquer par ailleurs l'unique mention de la femme consacrée ? On remarquera que les Ragimu ne sont jamais associés à une ville, comme c'est le cas des prophètes des textes des Saradons. Serait-il possible que des prophètes mentionnés dans ces textes ne soient pas qualifiés comme tels, parce qu'ils n'étaient pas justement des spécialistes de la prophétie comme le Marou ou le Ragimu ? Les textes de l'époque d'Assurbanipal, comme je vous l'ai montré, ne permettraient-ils pas de diviser ces prophètes en ces trois catégories ? En d'autres termes, un prophète professionnel était-il le seul à pouvoir prophétiser et quel était le statut de la prophétie dans la conception assyrienne ? Des exemples issus des inscriptions d'Assurbanipal montrent que le roi lui-même pouvait recevoir directement des messages divins, sans avoir besoin de passer par un intermédiaire. Il nous dit en effet, alors qu'il visitait la ville d'Arbel, pour en vénérer la déesse Ishtar, qu'il y reçoit un message indiquant que le souverain élamite Théouman se décidait à lancer une offensive contre la Syrie. Assurbanipal va alors voir lui-même Ishtar et lui adresse une prière. Cette dernière lui répond « Ne crains rien, grâce à la prière que tu as dite avec tes mains levées, tes yeux pleins de larmes, j'ai de la compassion pour toi. » Le présage est confirmé la nuit même, car un chabrou fit un rêve qui confortait cette prévision. La forme du message que reçoit Assurbanipal correspond parfaitement à ce que l'on trouve dans les collections de prophéties datant des Saradons. On peut se demander, comme certains, si la divinité a répondu directement à Assurbanipal et comment ce type de message pouvait être fourni. Les deux réponses peuvent être trouvées dans une série d'observations des signes fortuits, Shuma'alu, si une ville. La tablette 95 a pour titre « Si un homme prie un dieu et qu'une prophétie lui répond rapidement ». Cette partie du traité donne l'interprétation divinatoire de l'observation de phénomènes liés à des prophéties. Je vous en donne quelques exemples. Si un homme prie son Dieu, etc., une prophétie lui répond oui trois fois, c'est un oui affirmatif. Si elle lui répond non une fois, échec du plan. Mais si elle lui répond non deux fois, réussite du plan. Cela montre que pour recevoir un égérou, il suffit de prier son Dieu. Le texte montre par ailleurs que cet égérou peut être obtenu par un homme lorsqu'il prie n'importe quel dieu. Dans la même série Shuma'alu, nous avons le même genre de commentaire pour le roi, dans une tablette malheureusement beaucoup trop cassée. Le parallèle entre ce texte divinatoire et la réponse qu'obtient Assurbanipal permet de supposer que ce que reçoit Assurbanipal pourrait être un égérou. Rappelons par ailleurs que dans une de ses inscriptions, Esaradon précise les messages des extatiques, Shipir Marré, concernant l'établissement des fondations de mon trône sacerdotal, depuis les jours anciens m'étaient envoyés constamment et régulièrement. De bons augures m'arrivaient par des rêves et des égérous concernant l'établissement de mon trône. Arrivé au terme de cet exposé, nous avons pu voir que le corpus des prophéties néo-assyriennes est finalement extrêmement restreint. 11 tablettes sur 31 000 numéros d'inventaire. Associés aussi à quelques références de lettres très peu nombreuses. Elles ne permettent certainement pas d'obtenir une vision très claire du phénomène. Néanmoins, le corpus à notre disposition permet de supposer que les sortes de prophètes étaient au moins au nombre de deux, Ragimu et Maru, mais que l'on pouvait aussi... qui prophétisait, mais que l'on pouvait aussi interroger, bien entendu, et qui était d'un certain rang. Le Maru, que l'on voit quasiment pas, malheureusement, dans le corpus épistolaire, mais qui existait, d'après ce que nous disent les autres textes, d'un statut certainement un petit peu inférieur, et qui appartenait, semble-t-il, au personnel du temple. Enfin, une partie des personnes qui ont livré des prophéties ne portent pas de titre. Il pouvait s'agir de simples particuliers ou, plus certainement, de personnel du temple, telle la fille consacrée par le roi. Les textes divinatoires à notre disposition montrent que l'on pouvait entendre des prophéties un peu partout et que, certainement, celles qui sont arrivées jusqu'à nous ne sont qu'une faible partie de celles qui ont existé. Par ailleurs, la prophétie n'apparaît pas à l'époque néo-assyrienne comme un phénomène à part, mais plutôt comme inclus dans un vaste système divinatoire, notamment celui des présages fortuits, dont il fallait alors vérifier la validité. L'état du corpus laisse espérer néanmoins de nouvelles découvertes qui permettront, n'en doutant pas, de mieux comprendre ce phénomène complexe. Je vous remercie de votre attention.